France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Le rendez-vous de Choose France, d'ordinaire, il est là pour vanter l'attractivité de la France, attirer les entreprises étrangères. Cette année, il sert plutôt, j'espère que nos invités ne vont pas m'en vouloir de le dire ainsi, il sert plutôt de câlinothérapie pour des patrons français qui ont besoin, semble-t-il, qu'on leur dise qu'on les aime. 30 milliards d'investissements à suivre, dont plus de 9 dans des projets nouveaux, annoncés aujourd'hui même, au sommet donc de la Maison de la Chimie. Est-ce que ça suffit pour rassurer, sachant que le rendez-vous coïncide avec la semaine de l'industrie? L'actualité aujourd'hui même nous montre que le secteur souffre et la crainte des patrons français, c'est qu'on ne remonte jamais cette pente-là. L'instabilité politique n'aide pas au moral, c'est le moins qu'on puisse dire, encore moins l'absence de perspective, et on verra jusqu'à quel point ça pèse. C'est donc à ceux qui ont choisi, parfois contre vents et marées, de rester en France et d'investir en France que cette émission s'adresse, et à vous aussi qui travaillez dans ces boîtes et qui décident de donc rester en France. De quoi on parle? De qui on parle? De quels produits? De quels investissements? Est-ce qu'on parle de patriotisme économique? Un petit peu sans doute, mais ça va évidemment plus loin. Personne n'est philanthrope. Alors bien sûr, ce soir, nous parlerons aussi coûts, nous parlerons fiscalité. On ne va pas faire comme si on n'était pas en plein débat budgétaire. Et les polémiques, même au sein sur ce sujet, au sujet des charges supplémentaires. Mais parlons aussi de main-d'œuvre, de qualification, de savoir-faire. Et là, c'est vous qui nous écoutez, qui représentez cela. Qu'est-ce qui motive un patron à rester en France? Mais également, qu'est-ce qui vous motiverait, vous, à le soutenir pour qu'il ne partent pas? Quelle politique pour faire rester les patrons français? À vos questions et vos remarques, les amis, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Benjamin, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
On vous écoute, Benjamin.
Merci de prendre mon témoignage et ma question. Alors moi, je suis salarié d'une entreprise qui fabrique en France, puisqu'on produit les cadres des vélos qu'on assemble ensuite pour la marque Radior. On est situé à Bourg-en-Bresse. Et on a la chance d'avoir été sélectionné pour la grande exposition du fabriqué en France en 2024, l'an dernier, au Palais de l'Élysée. On est chaque année exposant au salon du Made in France, dont celui de cette année a eu lieu il y a quelques jours à Paris. Et pourtant, le constat d'un patriotisme économique, je reprends le terme évoqué en introduction, reste pour nous assez paradoxal. Quand on en discute au travail, quand on en discute avec notre entourage, on se rend compte qu'il y a une période de l'année où on va en parler de manière exagérée, je ne sais pas, mais en tout cas on va en parler, ça va apparaître dans les médias, notamment au mois de novembre avec le salon du Made in France, j'en parlais, avec le Black Friday, les cadeaux de Noël au mois de décembre, et puis finalement le reste de l'année, on a plutôt l'impression d'un essoufflement. Et même les collectivités, finalement, pourraient jouer le jeu dans leurs achats d'une certaine préférence pour les produits fabriqués en France, mais elles ne font pas systématiquement l'effort de soutenir les emplois, les savoir-faire de leur territoire, finalement. Ma question est donc la suivante. Est-ce qu'on peut légitimement réclamer une TVA réduite sur les produits qui seraient fabriqués en France pour les rendre plus compétitifs, notamment quand on a la statistique suivante de 70% des Français qui affirment vouloir faire le choix du fabriqué en France, mais que leur premier frein reste le prix de ces produits par rapport à un produit fabriqué à l'étranger?
Eh ben merci beaucoup pour cette introduction, Benjamin. Je retiens sur la proposition, puis je retiens ce que les gens mettent derrière ce patriotisme économique, à la fois ceux qui achètent, mais aussi ceux qui fabriquent. Pour discuter ensemble jusqu'à 20h, autour de la table, il y a Eric Renard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de la Phocéenne Cosmétique. Il y a Olivier Schiller également, bonsoir. Schiller,
absolument.
Président du groupe Steptodon. Vous fabriquez, c'est très pointu, notamment de la cartouche d'anesthésie locale, est-ce que je me trompe?
Exactement, nous sommes leader mondial dans le domaine des anesthésiques dentaires, dans la médecine dentaire. Nous réalisons 95% de notre chiffre d'affaires en dehors de France et nous avons 40% de nos salariés en France.
Vous êtes le vice-président du mouvement des entreprises de taille intermédiaire qui s'appelle le METI. Et il y a Emmanuel Dutaille qui est là avec nous. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Le directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle, c'est vous. J'aimerais avoir votre avis l'un et l'autre, Eric Renard, peut-être pour commencer, sur ce que dit notre ami auditeur Benjamin qui dit, en gros, le patriotisme économique qu'on demande aux gens et qu'on est même censé demander à nos entreprises pour qu'elles continuent à travailler et produire en France, ça va bien pendant certaines périodes de l'année, puis après on oublie, quoi. Vous avez ce même sentiment, vous?
Alors en fait,
Nous, on est un tout petit peu à part parce qu'on fabrique 100% de nos produits en France avec nos trois marques.
Vous les avez rapatriés surtout, c'est ça qui est intéressant. Ouais.
Et Laboratoire Vendôme. Et en fait, ce qui fait quand même que on réussit, c'est qu'on a une compétitivité. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Si on n'est pas compétitif, on n'existe pas. Et les consommateurs ont envie d'avoir un rapport qualité-prix. Alors, pas forcément un prix d'ailleurs, c'est souvent l'écart, la différence, mais un rapport qualité-prix qui leur convienne. Et si on n'est pas dans cette logique-là, c'est sûr que c'est très très difficile. Mmh. Et c'est vrai aussi que c'est difficile d'être compétitif en France, pour plein de raisons qu'on va évoquer, j'imagine. Mais la réalité, c'est que sans compétitivité de notre offre, il y a peu de chances de réussir à percer sur un marché. Alors nous, on intervient en hygiène beauté, et il se trouve que en hygiène beauté, on a encore un patrimoine industriel en France qui est très important. Mmh. On a un parc industriel avec encore de nombreuses usines, alors qui sont en souffrance, et on a dans notre métier, par exemple, deux métiers, c'est pour ça qu'on dit l'hygiène beauté. En fait, vous avez les produits d'hygiène, en gros, c'est ce qui lave, beauté, c'est ce qui hydrate, si je fais un raccourci très rapide. Et sur les produits qui lavent, en règle générale, vous êtes plutôt moins cher, et les produits de beauté, les produits qui hydratent un peu plus cher, et on voit petit à petit une forme d'exode de la fabrication des produits d'hygiène vers des produits à moindre coût, des pays à moindre coût. Donc même un métier comme le nôtre, qui est un métier sur lequel il y a encore un très fort potentiel industriel, on voit ça s'éroder petit à petit.
Vous êtes rentré, si je puis dire. Vous êtes rentré de Pologne notamment, mais pas seulement. Vous étiez où également
Nous, on a toujours fabriqué 100% de nos produits en France. Il se trouve par contre, c'est à ça que vous faites allusion, que nous avons racheté récemment une marque historique française qui s'appelle les Laboratoires Vendôme.
Exactement.
Et cette marque historique française,
et vous les avez ramenés,
qui était dans son histoire, elle était fabriquée en France appartenant à des Français, puis elle était vendue à des Américains, puis à des Italiens, et nous on l'a rachetée à des Italiens, et il se trouve qu'à ce moment-là elle était fabriquée en Pologne et en Italie.
Le sens de ma question, c'est: est-ce que vous avez perdu de l'argent en route? Et comme je le disais, personne n'est philanthrope, et c'est bien normal. Je voudrais savoir comment derrière vous récupérez ce que vous avez perdu, notamment au coût de main d'œuvre. Rapidement, puis on va donner la parole évidemment à Monsieur Schiller dans un instant.
Oui, alors rapidement sur l'histoire de Laboratoire Vendôme, comme je vous le disais, nous on n'a jamais fabriqué à l'étranger, et c'est à cette occasion qu'on s'est aperçu de façon très pragmatique que de la fabrication en Pologne par exemple, c'était environ 15% moins cher. Donc pour nous c'était une découverte, puisqu'on n'avait jamais fait ce travail de recherche de fabrication à l'étranger. 15% c'est beaucoup. Et par contre on s'est également aperçu dans le même temps que pour des raisons énergétiques, l'émission de carbone, de CO2 sur la dimension énergétique de la fabrication des produits Laboratoire Vendôme, c'était 10 fois moins en France qu'en Pologne. Pour une raison simple, c'est que nous, on a une énergie non carbonée qui s'appelle le nucléaire, alors que les Polonais utilisent du charbon. Et donc, notre choix, c'était de savoir, est-ce qu'on a envie de continuer 15% moins cher et émettre du carbone, ou est-ce qu'on a envie d'être 15% plus cher et arrêter d'émettre du carbone? Bon, en fait, la réponse, elle est dans la question. On a évidemment plutôt fabriqué en France.
Est-ce que vous avez le sentiment, Olivier Schiller, qu'au fond, quand on est chef d'entreprise, et c'est un peu le sens de la question de Benjamin aussi, qu'on produise en France ou qu'on ne produise pas en France, à la fin, tout le monde s'en fout, en fait? Ou est-ce que vous avez quand même le sentiment d'avoir un espèce de supplément d'âme particulier, et qu'il est reconnu surtout autour de vous ou pas?
Alors en tout cas, il est reconnu par notre entreprise et par leurs salariés, hein,
certes,
qui sont très attachés
et au-delà
à leur travail. Et la question, c'est pas tellement de demander aux consommateurs est-ce qu'ils sont prêts à payer plus cher ou pas, c'est de donner aux entreprises françaises la possibilité d'être compétitives quand elles travaillent en France. Et aujourd'hui, les conditions...
Et quand je disais être reconnu, je parlais plutôt des pouvoirs publics, en effet, que les gens qui vous achètent, surtout sur vous, qui êtes sur un créneau qui est extrêmement particulier. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous regarde, que les pouvoirs publics vous regardent en disant merci, bravo, ou...
Oui, cette reconnaissance existe. Depuis une dizaine d'années, les pouvoirs publics ont essayé de gommer l'écart de compétitivité qu'il peut y avoir entre la France et puis les pays qui nous entourent, ce qui a permis de créer de l'emploi, de réduire le chômage, d'investir. Et c'est vrai que depuis 2-3 ans, on ne voit plus vraiment cette reconnaissance. Et donc, c'est de plus en plus... Alors qu'il y avait une trajectoire, effectivement, de réalignement compétitif, aujourd'hui, la situation est beaucoup moins positive. Et c'est effectivement ce dont vous parliez en évoquant le budget 2026.
Emmanuel Dutheil, il y a beaucoup de gens qui mettent une espèce de barrière, effectivement, en gros, on va dire à 2022, en fait, quand quelque chose tangue dans l'économie française et la vision des entreprises également, en fait.
Ouais, je crois pas seulement
la dissolution, en fait,
c'est bien au-delà. La dissolution, mais c'est quand même très, très, très clairement la dissolution. Bah, les quelques mois avant la dissolution, la campagne européenne, la dissolution. Nous, on fait typiquement à l'usine nouvelle un baromètre des investissements. investissements industriels. Donc on compte aussi bien les ouvertures, les extensions et les fermetures. Ça se tenait pas trop mal jusqu'au début, même 2024. Vraiment, ça se tenait pas trop mal. Il y avait pas mal de projets annoncés. Et à partir de la dissolution, là, il y a un inversement de tendance très clair. Et là, en 2025, on a un écart assez net entre les fermetures et les ouvertures. Donc effectivement, ça pose un problème dans un pays où on le dit pas assez, parce que là, on parle d'aimer notre industrie, mais ça fait des années que ce pays s'en fichait assez royalement de ses entreprises. C'est-à-dire que si vous vous comparez par rapport à des choses qui sont très comparables, hein, l'Italie. L'Italie est un pays qui a encore aujourd'hui, allez, on va arrondir, une vingtaine de pourcents de son PIB qui dépend de l'industrie. C'est un pays qui est très industriel.
On n'est pas à 10, nous, c'est ça ?
On est
entre 9
et 10. Nous, on est à 10, les bonnes années. Okay. On tangente autour du 10 et on en est très loin parce qu'on a abandonné nos entreprises. On en revient toujours à cette phrase de Serge Chureux qui avait été le patron d'Alcatel et qui avait dit pas besoin d'usine en France, on va les délocaliser et nous on aura grosso modo la valeur ajoutée. Ben aujourd'hui on n'a pas tout le temps la valeur ajoutée, on n'a surtout pas assez d'usines. Il y a eu un petit mouvement, hein, vous avez raison, au début d'Emmanuel Macron il y a eu une forme de réindustrialisation dans les territoires, mais il y a des pans entiers qu'on ne peut pas faire revenir.
Et puis il y a eu des promesses aussi, enfin, on va y venir dans un instant, mais il y a eu Relance France, enfin il y a eu ça quand même, à un moment il y a eu des choses qui ont été signées.
Il y a des choses qui ont été faites, il y a eu beaucoup d'argent mis sur la table, notamment avec un plan qui s'appelle France 2030, où là ça se calcule en dizaines de milliards d'euros, il y a eu de l'argent donné. Ce qu'a fait Emmanuel Macron autour des Choose France dans un premier temps qui était destiné aux entreprises étrangères, ça a véritablement fonctionné. Alors, il y a plein d'annonces qui auraient été faites sans ça au fil de l'eau, mais on les rassemblait sur une journée. Mais ça a fonctionné et encore aujourd'hui, il faut quand même saluer. Monsieur Schiller en est là aujourd'hui le témoin. Je crois que vous avez annoncé 40 millions d'euros d'investissement dans un nouveau site de production. Donc, il y a eu quelques annonces aujourd'hui. Mais la machine, elle est malheureusement à nouveau grippée.
On va retourner au standard, mais juste en un mot, Éric Renard, parce qu'on a mangé la question de la TVA réduite de notre auditeur à l'instant. Est-ce que vous dites oui, c'est une bonne idée ? Chiche, on fait ça pour les entreprises qui produisent et qui fabriquent, qui produisent et qui emploient en France ?
Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée, puis de toute façon, c'est à mon avis
vous pas possible. Vous ne faites pas un ennemi de notre ami Benjamin ?
Pas possible, mais par contre, l'idée d'imposer aux produits que nous importons en France les mêmes normes de fabrication et les mêmes critères que ceux que nous fabriquons localement, oui, ça, c'est non seulement c'est une bonne idée, mais on devrait le faire. Et on ne le fait pas.
Et c'est intéressant parce qu'il y va de l'industrie au fond comme l'agriculture. Si on avait un agriculteur en face de nous, il dirait exactement la même chose sur son mode de production et le mode de production de ceux qui font entrer leurs produits à l'intérieur du pays. Pardon, je vous ai interrompu, Emmanuel.
Par rapport à ce que dit Benjamin, c'est tout dépend ce qu'on entend par produire en France. C'est-à-dire que je pense que même dans son entreprise, vu qu'on parle de vélo, il parle des cycles qui sont produits, mais je suis pas certain que les freins, les roues...
En effet, il parlait des guidons, lui, d'ailleurs, très spécifiquement.
Donc, tout dépend ce que vous mettez derrière... Tout dépend ce que vous mettez derrière le produit en France et quel pourcentage vous mettez.
Je vous ai vu, Monsieur Schiller, je voudrais d'abord qu'on écoute Manolo. Bonsoir, Manolo.
Bonsoir, Fabienne.
On vous écoute.
C'est la culture du paradoxe, hein, parce que vos intervenants, ce sont l'arbre qui cache la forêt, parce que les grandes entreprises qui ont désinvesti et qui sont parties à l'étranger pendant les 30 dernières années, aujourd'hui, ils se prennent la porte dans le nez avec la Chine qui revient plein pot, après lui avoir mis le pied à l'étrier. Alors, il ne faut pas s'étonner non plus qu'on soit dans une situation, difficile. Les gens qui ont perdu leur emploi aujourd'hui, ils regardent ce qu'ils achètent et le prix qu'ils payent. Faut pas rêver non plus.
Merci beaucoup, Manolo. Olivier Schiller, est-ce que vous êtes l'arbre qui cache la forêt ? Moi, je trouve que la remarque de Manolo est intéressante, en fait.
Écoutez, je ne pense pas, parce qu'il y a tout un tissu d'entreprises de taille intermédiaire, d'ETI, en France. Beaucoup d'entre elles sont familiales, hein, 75% sont familiales, qui sont très attachées au Made in France et qui produisent l'essentiel de leurs produits en France. En fait, il y a deux conditions, vraiment, pour réindustrialiser le pays. Un, c'est qu'on gagne en compétitivité. On parlait tout à l'heure de TVA. Il y a beaucoup, beaucoup de charges qui pèsent sur les entreprises, et plus sur les entreprises, sur les produits made in France que sur les produits importés. Donc il faut rééquilibrer ça, et une des façons de faire, c'est de baisser un petit peu ou beaucoup les charges sur le made in France, et en le compensant peut-être par une petite hausse de TVA, hein. Benjamin parlait de TVA, comme ça on taxerait de la même façon les produits importés et les produits made in France.
Ça, c'est intéressant, votre exemple par rapport à celui de Benjamin est à l'inverse, mais allez-y, je vous en prie.
Le deuxième élément, c'est qu'il est très important d'avoir des familles qui sont propriétaires sanitaire des entreprises qui maillent le territoire français. Ces entreprises familiales sont absolument essentielles pour réindustrialiser le pays. On parle aujourd'hui beaucoup des impôts sur la transmission, etc. Mais si on n'arrive pas à conserver, je dirais, ce noyau familial d'entreprise, c'est sûr que la désindustrialisation va s'accélérer. Mmh. En Allemagne, vous avez le Mittelstand. En Italie, il y a forte concentration, notamment de l'ordre de l'Italie, d'entreprises industrielles. Il est absolument essentiel de préserver les entreprises familiales si on veut réindustrialiser le pays. Mmh. Si Septodon avait été vendu à un groupe étranger, la probabilité que l'investissement soit fait en France, sur notre site historique de Saint-Maur-des-Fossés, serait extrêmement faible.
Serait même probablement proche de zéro. Éric Renard, votre maître mot, c'est soyons évidemment compétitifs. Je peux l'entendre s'agissant des taxes, s'agissant des prélèvements, etc. Moi, je voudrais savoir quand même, encore une fois, parce que vous n'êtes pas philanthrope, ce qui vous ramène ici, en fait. Qu'est-ce qu'on a, malgré tout, de plus? Donc, qu'est-ce qu'on est quand même encore capable de vendre aujourd'hui et qui tient encore la route et qui fait que des gens comme vous peuvent encore s'installer en France, rester en France?
Heureusement, beaucoup de choses. Ben voilà. Heureusement. Mmh. Mais d'abord, nous, on a toujours fabriqué en France, donc on bénéficie quand même dans notre univers d'un écosystème. L'hygiène beauté française est leader mondial, donc on a des industries, on a des sous-traitants, on achète par exemple un peu plus de 95% de nos achats, c'est-à-dire on fabrique 100%, mais on achète nos bouchons, nos flacons à 95% en France. Donc il existe encore un réseau industriel qui nous permet de le faire. Il y a des métiers, le textile dont on parle très souvent, où ça n'existe plus, donc ce n'est plus possible. Mmh. Donc il faut préserver. Moi je crois qu'il faut, en fait, avoir une vraie, j'ai envie de dire presque un plan Marshall de l'industrie en France, parce qu'en fait on fait face à plein de problèmes. En réalité, souvent on dit oui, c'est le problème de la main d'œuvre. Oui, mais c'est aussi le problème de l'implantation sur les territoires. Mais c'est aussi le problème de la formation des personnels, parce qu'on a plus de jeunes qui veulent aller dans l'industrie. C'est le problème des taxes, c'est le problème des... En réalité, on n'a pas un problème, on a plein de problèmes, et c'est pas en s'attaquant à un seul de ces problèmes qu'on trouvera une solution, c'est plutôt en essayant de donner à notre pays l'envie de faire de l'industrie, de fabriquer, de refabriquer des choses qu'elle a arrêté de fabriquer. C'est quand même, de mon point de vue, un pur scandale qu'on n'ait pas été capable de fabriquer des médicaments, enfin des vaccins, et qu'on soit plus capable de fabriquer du Doliprane. Enfin, il y a des choses comme ça où c'est presque un problème de santé publique, et on se doit d'avoir une industrie. Et puis je finirai là-dessus, l'industrie, si on était à 20% du PIB, comme vient de le dire mon voisin, on n'aurait pas de problème de dette, parce que on générerait des milliards et des milliards de valeurs ajoutées, et on aurait beaucoup moins de problèmes de dette, peut-être pas, mais en tout cas beaucoup moins.
On disait tout à l'heure, Emmanuel Duteil, qu'il y a eu une tentative de relance et puis qu'elle a un petit peu fait chou blanc ou pas. Il y a eu ce moment, on a tous eu un moment Covid en fait, et un moment post-Covid, et c'est à ce moment-là qu'on a promis beaucoup de choses. J'y pense parce que Éric Renard donne l'exemple du médicament. Par exemple, des médicaments, on s'est rendu compte de ce qui nous manquait, de ce qu'il faut qu'on arrive à fabriquer. En quoi ça nous a quand même aidé? Ou est-ce qu'on est revenu aujourd'hui, 5-6 ans plus tard, à la case départ d'avant Covid, selon vous?
Non, ça nous a quand même un petit peu aidé, parce que ça nous a permis de nous rendre compte, même si beaucoup de gens le savaient, mais que ça nous a permis de nous rendre compte que nous n'étions pas souverains sur des choses capitales. Effectivement, en 2025, ne plus être capable de fabriquer du Doliprane en France, quand on a vu l'attachement quand Sanofi a vendu une partie du capital à des Américains, c'était un petit peu dommage. Donc oui, il y a eu quand même des choses, mais vous voyez, par exemple, sur l'usine Sequence qui a été créée pour ramener justement les principes actifs pour enfin les fabriquer en France, hein, puisque pour avoir toute la chaîne, on n'est pas encore à l'ouverture. Vous vous souvenez du moment où ça a été annoncé? Donc, mais malgré tout, il y a un petit mouvement, mais la santé est un très bon exemple d'un endroit où on avait complètement désinvesti. On faisait partie des plus gros producteurs de médicaments en Europe. Aujourd'hui, on est derrière la Belgique. On est derrière la Belgique.
Dites pas ça comme ça, on a beaucoup de gens de Belges qui nous écoutent, vous avez l'air de le dire d'une manière absolument terrifiante.
Il suffit de regarder la taille du pays, c'est-à-dire qu'on est derrière la Belgique, on va bientôt être rattrapé par l'Espagne, qui sont des pays comparables, mais parce que l'Espagne, par exemple, a mis des dispositifs réglementaires pour faire les tests de médicaments beaucoup plus facilement qu'en France. Il y a un exemple où ça va aujourd'hui très très bien, c'est l'exemple de la défense. La journée d'aujourd'hui le montre, avec la commande de 100 Rafales, alors même si c'est une lettre d'intention, on verra combien ils en achèteront au final. Là, il y a eu des choses qui se sont passées, parce que pareil, nous n'avions même plus de fabricants de poudre à canon en France. Donc c'est quand même un peu dommage, quand vous êtes le deuxième vendeur d'armes au monde, de même pas être capable de mettre de la poudre dans vos canons. Là, il y a eu des choses. On peut regarder le verre à moitié plein. Hein. Si vous regardez le verre à moitié plein depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a plus d'emplois industriels et plus d'usines qui se sont ouvertes. Si vous le regardez à moitié vide, un peu envie de dire, tout ça pour ça, on en revient au début. Aujourd'hui, pourquoi on a fait un Choose France aujourd'hui? Parce que, une fois de plus, le chef de l'État voulait faire des promesses aux industriels et leur dire « on vous aime ». Mais quelle est la vraie réponse? Ce ne sont que des promesses de taxes.
Des lettres d'intention, donc voilà. En quelque sorte. Pour en revenir à Rafale, on va y aller justement. Est-ce qu'on peut le rattraper, ce retard-là, et comment? Est-ce qu'on a atteint un point de non-retour? Et c'est Fabrice qui va nous aider à répondre à cette question grâce à la sienne. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir,
on vous écoute
pour vos émissions. Alors j'ai une question assez simple, quelle est la stratégie d'investissement, et notamment d'investissement industriel de la France et de l'État français? On entend beaucoup d'annonces qui semblent être beaucoup plus opportunistes que axées sur une stratégie de production, de produits ou de services dont on aurait besoin. Et comme ça a été dit justement à l'instant, on s'aperçoit que ce dont on aurait besoin, bah, finalement, on ne produit plus. Alors que bah, ces besoins-là, que ce soit tiré par la démographie ou tiré par l'évolution de notre système énergétique ou de nos moyens de transport, bah, en fait, ils sont hautement imprévisibles, quoi. Donc qu'est-ce qui manque pour que la France puisse se doter, comme d'autres pays voisins, d'une stratégie d'investissement structurée sur du moyen et long terme?
Vraie bonne question. Qu'est-ce qui manque, Olivier Schiller? Comment est-ce qu'on peut aider notre auditeur Fabrice? Qu'est-ce qui manque?
Alors, si on prend la question des médicaments, qui est fondamentale, il y a un vrai problème de la demande. C'est-à-dire que l'administration va tirer les prix vers le bas, et quand il y a des appels d'offres, s'il y a 2 centimes d'écart entre un produit made in France et un produit importé de Chine, ils vont choisir les produits chinois. Les Allemands font exactement l'inverse. Ils favorisent le made in Germany, hein, dans les Länder, au niveau national. L'État et puis les collectivités publiques ont des moyens considérables, hein, ça représente des sommes tout à fait considérables. Donc il faut changer la culture des appels d'offres françaises pour vraiment privilégier le made in France.
Un mot, Éric Renard?
Oui, j'ai envie de répondre que ce qui nous manque, c'est la volonté. La volonté d'avoir une industrie forte.
Mais la volonté de qui, pardon?
La volonté du législateur, la volonté du gouvernement. Je ne suis pas sûr qu'il faille que le gouvernement investisse des milliards, parce que d'abord, il n'en a pas la capacité, on le voit tous les jours en ce moment, mais déjà qu'il libère la possibilité à des entreprises comme les nôtres de le faire. C'est-à-dire que nous, on est capable d'investir, pas des milliards pour la Phocéenne, mais des millions, on est capable de le faire, mais à condition qu'on arrête de nous mettre des bâtons dans les roues, à condition qu'on ne parle pas en permanence d'augmenter les impôts de là, de ci, de là, à condition qu'on nous autorise à fabriquer sur des territoires, la fameuse loi qui restreint la possibilité de
la ZAD,
de zéro artificialisation,
zéro artificialisation nette,
même s'il a été réformé, maintenant les produits industriels en sortent.
Mais en fait, tout est compliqué chez nous, tout est difficile, on est dans un pays qui est suradministré, et en fait c'est cette volonté. J'ai souvent envie de dire, ne nous donnez pas d'aide, laissez-nous faire. Et on ne nous laisse pas faire.
Très rapidement, et puis on retourne au standard.
C'est très important ce que vient de dire Éric Renard sur le côté laissez-nous faire, mais pas dans le sens laissez-nous faire ce que l'on veut, quand on veut, où on veut. Je vous prends un exemple qui, je pense, est très parlant. Justement, l'entreprise Orenco qui a rapatrié les poudres en France. Il s'est dit, si je veux aller vite, parce que je dois répondre maintenant à la demande à cause de la guerre en Ukraine, je vais prendre les normes, je vais les multiplier par 2, comme ça je suis sûr que personne viendra m'embêter.
Je suis dans les clous.
Donc par exemple, ces murs, ils sont 2 fois plus épais que ce qu'on demande pour ce type d'usine, parce qu'il s'est dit, la dépense que je vais avoir là, elle sera plus utile que le temps que je vais perdre. Pareil, il faut des portes hyper sécurisées, dans ce genre de choses. Il les a multipliées par 2. Et il y a un point, juste, dont vous n'avez pas parlé, c'est l'acceptation. Parce qu'il y a un grand paradoxe en France. On a envie d'avoir de l'industrie, mais on ne la veut pas au bout de chez nous.
Ça,
c'est un point qui est très compliqué. Et vous savez qu'aujourd'hui...
Not in my backyard, mais il y va de ça comme
Mais ce qui est un point très important, c'est-à-dire chaque usine qui ferme, est une usine qui est quasi impossible à rouvrir à cause, pas à cause, parce qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir de l'industrie, mais en grande partie à cause de cela, et on en est peut-être tous les premiers concernés, à pas vouloir avoir une usine au bout de chez nous. Et quand on va se poser la question d'installer le nouveau nucléaire ou les petits nucléaires qu'on appelle du SMR, bon courage pour trouver des terrains pour pouvoir les ouvrir. Donc l'acceptation, je pense que c'est quelque chose, il faut re-raconter, et les industriels ont sûrement un tort, ils doivent faire cet énorme travail de re-raconter à quoi ça sert de la valorisation quand vous travaillez dans une industrie, de voir tous les jours ce que vous êtes en train de fabriquer, j'imagine, dans votre entreprise, vos collaborateurs. Ils savent pourquoi ils se lèvent le matin, ce qu'ils fabriquent et à quoi ça va servir.
Montrez-nous ce que vous faites, montrez-nous comment vous le faites, ouvrez les usines, laissez-nous rentrer, etc. Et on en saura tellement mieux. Vous avez évoqué, Éric Renard, à l'instant, une affaire d'énergie. Éric nous envoie une note vocale pile sur le sujet.
Bonjour, c'est Éric de Nantes. Pourquoi ne pas avoir des tarifs préférentiels au niveau de l'énergie, notamment pour les entreprises qui consomment énormément d'électricité pour leur production? Ce serait un moyen aussi d'aider significativement la production. Merci.
Vous l'achetez l'idée d'Éric, Éric Renard, non ?
Oui, je l'achète, mais en fait, c'est la réponse que j'ai faite auparavant, c'est un problème de volonté. C'est, est-ce que notre nation a envie d'être un pays industriel ? Et si elle a envie d'être un pays industriel, elle va mettre les forces, les moyens, les ambitions en conséquence. Ce n'est pas le cas.
C'est intéressant, aujourd'hui, à la COP30, par exemple, on voit que, on verra bien ce que ça donne, mais on voit que l'Union en remet une couche sur la taxe carbone aux frontières, etc. Ça veut dire que, à la fois, je vous suis sur le fait qu'on avance un petit peu à la vitesse de l'escargot, mais la prise de conscience et donc l'idée, elle est quand même sur le tapis, non ? Ou pas, Olivier Schiller ?
Oui, alors, il est clair que la consommation d'électricité va augmenter dans les années futures. Si on veut décarboner, nous, par exemple, on va transformer deux grosses chaudières à gaz en chaudières électriques, on va diminuer de 70% nos émissions de CO2 sur le scope 1 de notre site de Saint-Maur-des-Fossés. Beaucoup d'entreprises sont engagées dans des transitions environnementales, et pour cela, il faut avoir des conditions d'achat de l'électricité compétitive. Et nous fondons beaucoup d'espoir sur le dialogue avec le nouveau directeur général d'EDF au niveau du métier, Bernard Fontana, exactement. Donc on s'est groupé pour aller négocier entre guillemets avec EDF des contrats compétitifs pour les entreprises électro-intensives ou électro-sensibles. Et c'est un facteur de compétitivité. Mais je pense que de ce côté-là, il y a une vraie prise de conscience et je suis assez optimiste sur la capacité de payer moins cher l'électricité.
C'est votre cheval de bataille, Éric Renard. Après, j'ai une question sur WhatsApp qui sera pour vous, Emmanuel Dutheil. Allez-y.
Oui, c'est... Alors là, moi, je suis vraiment à fond là-dessus parce que nos prix, ils doivent aussi intégrer la notion de carbone. En France, on a un atout compétitif majeur, c'est le nucléaire. Ouais. C'est un atout compétitif extraordinaire. C'est 10 fois moins carboné que le charbon. Et si dans le prix pratiqué à la fois à l'importation et à la fabrication locale, on intégrait ces notions de carbone, eh ben la France deviendrait une industrie compétitive, beaucoup plus compétitive instantanément.
D'où la taxe carbone aux frontières commence...
Oui, ça n'a pas bien marché, la taxe carbone aux frontières.
L'électricité française est 7 fois moins carbonée que l'électricité allemande. Voilà.
Mais aux frontières, l'EU la lance en 2023, il va y avoir une expérimentation en 2026, on verra jusqu'en 2034.
Ils l'ont réclamé de leur vœu, et puis finalement, aujourd'hui, quand ils regardent le texte, ils disent qu'il est inapplicable. Bon, c'est comme souvent avec l'Europe, malheureusement.
Aluminium, ciment, engrais, électricité, hydrogène, pour l'instant restreinte, en plus, pour les gens qui nous écoutent et qui n'en ont pas forcément le détail. Cette question qui me semble intéressante est celle de Jacques. Écoutez là, Emmanuel Dutheil, il dit, mais est-ce que c'est grave de ne pas avoir d'industrie en France dans un contexte européen ? Est-ce qu'on ne devrait pas focaliser sur quelques filières d'excellence ? Qu'est-ce qu'on lui répond à Jacques ?
Il a totalement raison, et c'est sûrement l'un des problèmes français, c'est que nous n'avons, ces dernières années, pas su faire le choix de ce que nous voulions faire. Et donc, on a essayé de faire un peu tout en concurrence, et très souvent en concurrence avec les Allemands, avec les Italiens. Donc c'est vrai qu'on aurait mieux fait de se dire il y a quelques années, mais c'est vrai aussi pour l'agriculture. Hein. On devrait être bon dans cette filière agricole. Donc Jacques, je crois que c'est comme ça que votre auditeur s'appelle. Bien sûr qu'il a raison, puisque dans tous les cas, nous n'avons pas les moyens. C'est un tout petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, parce que vu qu'on n'a plus de sous dans le plan France 2030, ils ont décidé de le resserrer sur 3-4 domaines, notamment l'IA et ce genre de choses, le nucléaire également dedans. Donc c'est un peu ce qu'on fait, forcé par le fait que les caisses sont vides.
C'est intéressant parce que dans l'enveloppe promise là à Choose France, il y en a notamment une partie qui est dévolue à un data center, autant que je sache, donc ça veut dire que c'est dans cette direction-là.
Après, il faut faire attention à ce qui a été annoncé aujourd'hui, 31 milliards, là-dessus il n'y en a que 9 milliards de nouveaux, et même au milieu de ces 9 milliards, vous avez le fameux data
center. Les fameux 4 milliards, ils étaient déjà prévus, ils sont dans les 9 ou dans les 30,
ils étaient déjà.
Donc ils sont de l'autre côté.
Ils étaient déjà, mais une fois de plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà bien 4, 5, 6 milliards en plus.
Je suis pas forcément d'accord avec vous, parce que je ne crois pas du tout en un État stratège qui va faire des grands plans pour dire aux industriels, vous devez investir dans ci ou dans ça. Je pense beaucoup plus à la liberté d'entreprendre, à la diminution de la réglementation, hein, sans faire n'importe quoi, et à libérer les forces vives en diminuant les coûts de production. Je pense que c'est vraiment l'initiative individuelle qui va permettre des entrepreneurs, qui va permettre certes, de développer l'industrie.
Aujourd'hui, des projets majeurs, prenons par exemple le futur avion de combat, là, le SCAF, on va finir par en fabriquer en Allemagne et en fabriquer en France parce qu'on est un foutu de s'entendre, alors qu'on sait que le problème principal, ça va être l'argent. Donc au final, on risque, alors qu'aujourd'hui, on a la plus belle technologie au monde pour savoir fabriquer des avions de guerre, même si bon, on pourrait aimer avoir des technologies mondiales dans des secteurs peut-être plus utiles. Mais bon,
oui, sur ces grands projets,
sur l'IA, c'est totalement impensable de croire qu'on va avoir un ChatGPT français, même si on a Mistral, qui sera concurrent de ChatGPT, de DeepSeek en Chine ou autre. C'est ça que je voulais dire. C'était dans ces quelques secteurs de pointe. Je ne pensais pas à un État dirigiste qui dit ces quatre trucs et point à la ligne et pas d'idée pour inventer.
Voilà, on s'interroge sur ce qu'on peut rattraper en termes d'industrie, mais effectivement en termes d'intelligence artificielle aussi. Quel est le retard qu'on a pris? Est-ce qu'on pourra vraiment jouer dans la cour des grands? Et à quel moment? Voici une autre question, c'est celle de Jean qui est avec nous. Bonsoir Jean.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Jean.
Oui, je voulais intervenir parce que bon, j'ai travaillé dans le Sud-Ouest avec beaucoup d'entreprises qui travaillent avec de la sidérurgie. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que en France, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent de l'acier et bizarrement, il n'y a pas de corrélation, et qui touchent des subventions de l'État, il n'y a pas de corrélation entre leurs besoins et la production française. C'est-à-dire que chacun regarde ce dont il a besoin, mais s'il trouve moins cher à l'étranger, il le prendra. Alors que c'est des entreprises qui quand même bénéficient d'argent de l'État et de subventions, et n'en font pas profiter les autres entreprises. Finalement, c'est un consortium de qui se disent unis, mais qui chacun regarde de son côté.
Merci beaucoup Jean pour votre question. Qui veut répondre? Je vous voyais opiner du chef, les uns comme les autres, Emmanuel ou Olivier Schiller.
L'Europe est le continent qui encore aujourd'hui croit le plus en une forme de ce qu'on avait qualifié un moment de mondialisation heureuse. C'est-à-dire que nos portes sont plutôt ouvertes parce qu'on pense que c'est comme ça, et pendant très longtemps ça a été le cas. Sauf que l'acier chinois est arrivé massivement en Europe, et il faut arrêter de croire par ailleurs aujourd'hui que la Chine ne serait que des copieurs ou que
bien sûr, ouais.
Les usines chinoises sont plus performantes dans plein de secteurs qu'en France. Elles sont plus performantes. Donc aujourd'hui, on a une réalité d'acier de bonne qualité, parfois même vert, qui arrive à des prix beaucoup moins chers que les Européens. Donc ArcelorMittal, qui est notre géant franco-indien, mais fortement présent en France, est en énorme difficulté. Donc l'Europe a pris des mesures pour essayer de décider de
les jours où Novasco ferme une partie de ses portes.
Mais aujourd'hui, Novasco, qui est une faillite majeure, 500 collaborateurs qui se retrouvent aujourd'hui sans job, 3 sites qui vont fermer, un seul qui est repris. C'est l'exemple même de choses où on a perdu le combat parce qu'on a sous-investi, parce qu'on a eu des règles trop fortes, parce qu'on a cru à un moment que les Chinois... Vous voyez, Carlos Tavares, que vous avez reçu à France Inter il y a quelques jours, dans son livre, dit « Entre le moment où la Chine s'est fermée pour le Covid et le moment où il s'est rouvert, nous, on a perdu 10 ans, ils ont pris 20 ans parce qu'on n'a pas pris la rapidité avec laquelle le pays a eu l'acier. » On est un très bon exemple.
Voici Laurence, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose, Eric Renard?
Oui, juste en quelques mots. En fait, il faut qu'on fasse attention parce que la Chine... D'abord, on est complice un peu de cette évolution de la Chine parce qu'on a transféré notre savoir-faire sur ces 40 dernières années. Ouais. Mais là, elle est en train de faire un truc terrible, c'est qu'après avoir détruit une grande partie de notre industrie, elle est en train de détruire nos circuits de distribution. Ouais. Et ça, c'est absolument dramatique parce qu'on voit tous les magasins qui ferment les uns derrière les autres. On voit l'arrivée de Shein, de Temu. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont attaqué avec notre bienveillance notre parc industriel sur ces 40 dernières années. Et là, ils sont en train méthodiquement de détruire notre circuit de distribution. Il faut quand même qu'on se réveille.
Laurence, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Soyez la bienvenue, Laurence.
Merci beaucoup. Je voulais savoir si, compte tenu de l'expérience très positive du financement de Duralex, on ne pourrait pas imaginer aussi la possibilité d'un fonds souverain financé par des Français qui pourrait exprimer des choix industriels ou de réindustrialisation.
Olivier Schiller, qu'est-ce qu'on répond à Laurence? Est-ce que vous lui dites chiche?
Non mais Laurence, Laurence a raison, on manque de fonds en France pour investir dans l'industrie, hein, comme c'est le cas aux États-Unis qui ont une retraite par capitalisation, vous avez des fonds absolument énormes qui investissent dans l'industrie, et on manque de capitaux en France. Donc encourager les Français au lieu d'orienter leur épargne sur l'assurance vie, mais vers le financement de l'économie, c'est quelque chose qui serait extrêmement rentable et... Bien sûr que c'est quelque chose qu'il faudrait faire.
On parlait de Novasco, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais Grébul, c'est un fonds d'investissement, non ?
C'est un fonds d'investissement qui, ce soir, dit qu'il a respecté tout ce qu'il avait promis. Ça n'a pas l'air d'être bien sûr, mais l'histoire de Duralex, c'est effectivement une belle histoire. Alors après, il faut finir la phrase, hein. Il propose 8% de rendement. Mm-hmm. Ça fait quand même rêver aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a pas une seule assurance-vie en France. Mais ce qui est vachement symbolique avec cette histoire, je trouve, c'est quand c'est bien raconté, quand il y a du sens, parce que là, le sens, c'est sauver Duralex. Mm-hmm. Ils se sont constitués en scope, les salariés ont un courage fou de relancer cet outil industriel qui était vieillissant. Mm-hmm. Pas un seul investisseur qui a voulu y aller. Hein. Pas un seul investisseur.
Mais c'est vrai que c'est joli, cette histoire de Duralex, Emmanuel Dutheil, mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà entendu à intervalles réguliers. On réentend une histoire comme ça d'ouvriers qui s'approprient leur outil, leur entreprise
là,
et qui essayent de le faire vivre.
J'espère qu'ils vont y arriver. Mm-hmm. Parce que typiquement, ils avaient besoin de beaucoup d'argent pour développer, pour se sauver parce qu'ils ne vont pas très bien, pour acheter de nouvelles machines. Mm-hmm. Parce qu'ils ont eu le courage de... Ces gens connaissaient l'outil industriel quand ils l'ont acheté. Mmh. Ils savaient qu'il était vraiment pas top, quoi. Et j'espère qu'ils vont réussir à se relancer grâce à ces millions.
Ça s'appelle le savoir-faire, et c'est ça qui compte, et c'est ça aussi qui vous attire, vous, toujours, et qui vous laisse ici en France. Il y a finalement une question à laquelle on n'a pas répondu, on arrive à la fin de cette émission. Éric Renard, est-ce que, en y mettant les bouchées doubles ou triples, on le rattrape, notre retard, ou faut-il faire le deuil d'une industrie forte, ou au moins d'un rapport au PIB, puisque vous l'avez beaucoup cité, par rapport à nos voisins italiens ou allemands, qui seraient à peu près équivalents?
Ah non, moi je crois qu'il ne faut absolument pas faire le deuil, vraiment pas. Je pense qu'on a des compétences, des savoir-faire. Ce qui nous manque, encore une fois, c'est la volonté. Mais on a... Justement, on l'a encore. On l'a peut-être pas partout. Est-ce qu'on peut réindustrialiser le textile? J'en suis pas sûr. Je suis pas l'homme le plus compétent pour répondre là-dessus. Mais il y a plein de métiers. La santé, l'hygiène beauté, dont on a parlé. Il y a des tas de métiers dans lesquels on peut encore être très très fort et encore meilleur. Donc non, il faut y aller. Allons-y.
Ben voilà, vive les cosmétiques et l'anesthésie locale que vous fabriquez l'un et l'autre. Je vous remercie beaucoup tous les trois. Merci vraiment pour cette émission. Merci à tous pour vos nombreux appels.